Europe 1, en balade avec Feu Chatterton, Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche. Aujourd'hui, c'est avec le groupe Feu Chatterton que nous partons en balade. Feu Chatterton, c'est le groupe pop français numéro 1 de ces dernières années, un véritable phénomène qui sera en concert au Zénith de Paris le 24 janvier. En attendant, Arthur le chanteur et Clément le guitariste nous emmènent dans leur quartier de prédilection, le Faubourg Saint-Denis. Ils vont nous présenter Samy Hosta, leur producteur, déjà légendaire, et les trois autres membres du groupe, Sébastien, Antoine et Raphaël, que l'on retrouvera chez Jeannette, le rendez-vous des branchés du 10e arrondissement.
À chaque missive la vois-je, je crains de vous causer l'ennui, et cette attente comme un missile endolorit ma tête, vois-je, vois-je, endolorit ma tête, vois-je, vois-je, que deux fois passe le jour et vienne la nuit, passe le jour et vienne la nuit.
Salut les garçons.
Salut.
C'est gentil de m'avoir donné rendez-vous devant le kiosque à journaux, vu qu'il y en a 4. On est au croisement du boulevard Saint-Denis et du boulevard de Strasbourg, donc fatalement il y en a beaucoup.
Ouais, c'est vrai que quand on t'a dit rendez-vous à sortie du métro près du kiosque, on avait oublié qu'il y avait des kiosques partout.
Ouais, on est au moins 6.
Mais là tu as remarqué, c'est les nouveaux kiosques à journaux de Paris. Ils sont très différents. Hein.
Ouais, il y a beaucoup plus d'espace, de porte-clés, de cartes postales.
Et il y a moins de journaux.
Ouais, moins de journaux aussi.
Donc c'est votre quartier alors ici?
Ouais, exactement. Bah, moi j'ai vécu pendant très très longtemps, 28 ans.
Alors là c'est Clément qui parle, hein, je le dis pour les auditeurs d'Europe 1. Clément, guitariste,
voilà.
Compositeur aussi.
Claviériste,
claviériste.
Joueur de
joueur de cri, de tambourin.
Arthur, chanteur, celui qui écrit tous les textes.
Ouais. Mais ouais, on a fait beaucoup de musique chez moi notamment, l'appartement de mes parents.
Ici dans ce quartier?
À Gare de l'Est, ouais.
En fait, on va vous emmener précisément dans la rue du Faubourg Saint-Denis.
Ouais.
Parce que, c'est, en gros, on pourrait aller partout dans le quartier, mais c'est comme si tout était concentré autour d'une rue. Clément habitait au niveau de Gare de l'Est, vraiment au niveau du marché Saint-Quentin.
Ouais, tout au bout de la rue du Faubourg Saint-Denis.
Tout au bout de la rue. Et là, on est de l'autre côté de la rue, donc au niveau de la porte Saint-Denis. Et on a l'impression d'avoir fait, au cours des ans, comme ça, une descente, remonter le courant comme les saumons, là, depuis la gare de l'Est, jusqu'à cette porte très, très charmante, parce qu'elle est... Elle est habitée par...
Par plein de pigeons.
Des milliers de pigeons.
Il y a effectivement beaucoup de pigeons.
Ouais, alors ça, on peut le voir sous deux aspects, quoi. Soit on trouve ça vraiment sale, un peu sordide, comme ça, parce qu'au milieu de la place, là, sous l'arche, il y a vraiment des fientes,
des ils pigeons sont très nombreux, et on se croirait presque sur la place Saint-Marc.
Mais si on est patient et qu'on a un peu de joie dans l'œil, on peut assister à des vols assez beaux, des très beaux vols de pigeons le long de la rue du Faubourg Saint-Denis.
Là, c'est arrivé, là, il y en a plein qui sont partis, qui ont pris comme nous la rue du Faubourg Saint-Denis, la rue, c'était la rue par laquelle on entrait dans Paris, par le nord, hein, c'était la rue par laquelle les rois de France, qui venaient de se faire couronner la basilique Saint-Denis, entraient dans Paris. Donc voilà une rue très animée, beaucoup de gens aux terrasses des cafés, même s'il fait froid, c'est l'hiver.
C'est ça qu'on aime aussi dans cette rue. En fait, moi j'habitais là-bas, j'avais pas vraiment vocation à venir tout le temps ici. Et puis ça a été quand même, c'est la rue où on venait absolument tout le temps. C'est le côté vraiment très animé, très mélangé. Tu vois, là on vient de passer devant le Sully et le Prado qui sont
deux cafés.
Deux bars, cafés qu'on a vraiment écumé pendant
des
années.
Et puis là, au tout début de la rue, il y a tous les restaurants turcs, les kebabs.
Et des vieux restaurants parisiens,
vieux
comme
restaurants,
Julien,
ouais.
Connu pour ses profiteroles.
Bon, c'est un peu à l'image de la jeunesse parisienne qu'on connaît. C'est, on se retrouve dans des rues où, d'un côté, parce qu'il y a aussi des personnalités de la rue ici. Il y a un type qui s'appelle Capo et qui est à moitié fou et qui dort debout le ventre sur les capots de voiture. C'est comme ça, ça a l'air à la fois vraiment grotesque et drôle, mais en même temps, Ce qui est assez émouvant, c'est que ce personnage-là de la rue, par exemple, c'est un Turc du quartier qui avant avait un commerce, il lui arrivait un malheur, et il est pris en charge par la communauté turque de la rue. Donc lui, il a décidé de rester comme ça dans la rue, il entretient ses souliers de caoutchouc avec des... Il les rafistole tout le temps, il reprise son unique tenue. Et comme ça, ça a l'air très étrange, en même temps, on sent que les gens font attention à lui, les gens s'occupent de lui. Et là, plus on avance, plus on se gentrifie. C'est une rue qui est assez drôle pour ça. Là, on est passé tout le coin turc avec les petits commerces et tout. Et on arrive là vers les cafés qui sont devenus les endroits, les repères des jeunes gens modernes. Quoi. Il y a chez Jeannette,
les plus branchés, oui.
Les plus branchés. Et il y a tous les jeunes, il y a toute la musique ici. Puis on monte, il y a des petits commerces.
En plus, on a vu la transformation du quartier, parce que chez Jeannette, où on va aller tout à l'heure, je pense, non ?
Ouais.
Oui, on a rendez-vous avec les autres membres du groupe.
C'est vraiment le premier bar un peu branché qui s'est installé ici, je pense, il y a 10-15 ans. Et moi, j'ai vu la transformation. Je venais pas du tout dans ce quartier avant, parce que c'était globalement assez mal famé. Et puis, ils sont arrivés là, et ça a transformé le quartier.
Vous voyez, là en face, il y a le 45 rue du Faubourg-Saint-Denis. Cette pharmacie, c'est la plus ancienne de Paris.
Ah bon ?
Elle était là déjà au 18e siècle. Oui, c'est vrai.
C'est dingue. Non, ce qui est dingue, c'est qu'elle vient d'être faite. Nous, on a passé toute l'année à faire l'album dans une des rues perpendiculaires.
L'album dont vous parlez, c'est l'Oiseleur, qui d'ailleurs vient d'être nommé aux Victoires de la Musique dans la catégorie meilleur album rock.
Ouais.
Est-ce que c'est vraiment un album rock ?
Oui.
J'ai l'impression qu'il est moins rock que celui d'avant. Il est plus lent.
Il est moins rock parce qu'il y a beaucoup moins de guitare, ça c'est vrai, il y a beaucoup
plus de
clavier.
Claviers.
Mais on reste quand même, on tient au jeu. Je pense que ça, c'est ça qui est rock aussi aujourd'hui, c'est de faire des albums où on joue vraiment, où on enregistre les choses tous ensemble, où il y a aussi beaucoup de batterie, il y a beaucoup de basses. Ça c'est quand même des éléments qui sont restés dans cet album et qui restent très rock. Et puis vraiment, le fait de jouer, de répéter les morceaux avant de les enregistrer, quelque chose qui se fait plus vraiment en fait aujourd'hui.
Europe 1.
Ça c'est rock.
On continue d'en parler dans un instant. On se retrouve toujours dans la rue du Faubourg-Saint-Denis avec Feu Chatterton.
Frédéric Tadéhi en balade avec Feu Chatterton sur Europe 1.
Le groupe Feu Chatterton nous font visiter leur Paris avec Frédéric Tadéhi. On les retrouve d'ailleurs devant un passage bien connu du 10e arrondissement.
Nous sommes dans un des quartiers les plus animés de Paris, la rue du Faubourg-Saint-Denis. Faubourg-Saint-Denis, c'est tout le quartier qui est animé. Bonjour. On est devant le passage des petites écuries, un endroit magique. Il y en a énormément ici. Hein. On pourrait passer toute sa journée, toute son année quasiment dans cette rue et dans les rues adjacentes. On a l'impression qu'on fait le tour du monde.
Mais c'est vrai, en plus, c'est un vortex qu'on a bien connu. Parce que donc là, on est en train de s'avancer vers une perpendiculaire de la rue, qui s'appelle la rue des Petites Écuries.
On peut peut-être passer voir les studios blocs.
Ouais, en fait, ce qui est marrant, parce qu'on essaye de le dire, mais on n'arrive pas à le dire clairement à chaque fois, c'est comment une rue est devenue pour nous un endroit plein de petites statuettes, quoi. Comme on en laisse sur le bord de la route pour dire, on est passé par là avec des bornes. Et en fait,
ils ont gravé vos noms.
On l'a fait.
Non, mais en fait, on a enregistré la plupart de nos albums et de nos titres
ici,
là, sur une rue qui est à côté, là, la rue d'Anguin et la rue Faubourg-Saint-Denis. Mais en fait, on a commencé adolescent à répéter dans cette rue, dans les studios bleus qui sont juste à côté du New Morning.
New Morning, qui est un célèbre club de jazz.
Voilà, exactement. Et en fait, on dépensait tout notre argent quand on était adolescents et jeunes adultes dans des studios de répétition où on se cassait les oreilles.
Vous voulez dire que Feu Chatterton existait déjà quand vous étiez ado ?
Seb et Clem avaient un groupe au lycée.
Seb, c'est Sébastien Wolf,
qui est l'autre guitariste
et claviériste.
Ouais. Quand on s'est rencontrés, eux avaient déjà un groupe de rock très populaire. Quoi. D'ailleurs, vous avez joué au New Morning avec le groupe.
Tu sais, on faisait les tremplins... pour les ados, et on était passé au New Morning avec tous les copains du lycée qui venaient nous applaudir.
C'est la classe, attends, quand t'as 17 ans, tu vois.
On croit que tout ça, ça s'est arrêté dans les années 60 avec le tremplin du Golf Douro. Mais non,
dans les années 90. Aujourd'hui, ça s'appelle Emerganza.
Entre autres.
Vraiment faire la promotion, mais c'était quand même assez rigolo à l'époque.
Là, on arrive juste devant le New Morning, qui ressemble pas du tout à un club de jazz. Hein, en tout cas, pas l'idée qu'on s'en fait. D'ailleurs, on est assis sur des chaises, assises les unes à côté des autres, on n'a pas le droit de fumer.
C'est très propre. Et là, cette devanture qui n'a l'air de rien, là.
Ouais.
Bah derrière ça, il y a des studios de répète pour tous les ados de Paris qui n'ont pas de cave.
Les ados, après, ouais, pour un
non,
peu tout le monde.
Non, c'est pas vrai, c'est professionnel, c'est vrai. Non, en plus, c'est vrai, je dis ça, on vient parfois y répéter aussi. Quand
ouais, aujourd'hui, en résidence, on répète encore, mais...
On a commencé notre premier... Moi, la première fois que j'ai fait de la musique dans une pièce vraiment insonorisée avec du matériel, c'était ici, quoi.
Et pour chanter, c'était dur ?
Ouais, bah, je chantais pas. Je parlais.
C'était du murmure.
Déjà, je mettais le son très très fort. pour pouvoir parler doucement et qu'on entende bien, parce que eux ont toujours joué très fort. Par contre, ça, c'est une constante.
Ça, on s'est pas arrêté.
À quoi c'est dû d'ailleurs le fait que j'ai l'impression que le volume sonore augmente à chaque fois de plus en plus. J'ai l'impression qu'il y a un concours.
Ouais, c'est une histoire de confiance.
Au début, c'est la batterie. Tu sais, c'est très technique. Le batteur joue fort. De toute façon,
il va invoquer un élément.
Le batteur, c'est Raphaël.
J'invoque la batterie.
Ah non, mais un élément technique pour dire qu'on est obligé de jouer fort.
Non, on n'est jamais obligé, mais bon, quand on fait du rock, le batteur joue fort, bah forcément, il faut mettre les amplis un peu plus fort, tu vois.
Et ici, on est dans un des derniers quartiers de Paris, on peut faire du bruit dans la rue le soir, d'ailleurs. Les voisins portent pas plainte tout de suite. Ouais,
bah d'ailleurs, là, dans l'axe, là, si vous regardez tout droit, au bout de la rue des Petites Écuries, il y a le Château d'Eau. Ouais. Ça, c'est un bon plan pour ceux qui veulent boire des bières pas chères, c'est très chaleureux.
C'est le café qui fait l'angle.
C'est le triptyque avec le Sully, le Prado et le Château, je crois que c'est le même propriétaire d'ailleurs.
Est-ce que Paris, la nuit, c'est toujours ce que c'était? Généralement, les gens se plaignent, ils disent que c'était mieux avant, mais c'est juste parce qu'avant, ils avaient 20 ans et maintenant, ils les ont
c'est
plus.
Vrai, c'est vrai.
Et vous qui avez encore pas beaucoup plus que 20 ans.
Franchement, on a vécu de belles histoires dans le coin, parce qu'un peu plus loin, vers la rue Papillon, là, il y a deux clubs. Le Star Night, qui est une sorte de clubs tenus par des Africains du quartier, un peu un bouge vraiment interlope. Il faut descendre des marches assez pentues pour arriver dans une cave voûtée de noir. Et plus loin, il y a la Mano. Ça a changé déjà. on allait faire la fête. En fait, on commençait parce que le café Jeannette, dont on vous a déjà parlé.
Chez Jeannette, ouais.
Il est pas mal parce qu'il change de... C'est un peu comme la ligne 9 du métro parisien. En fonction de l'avancée, et de l'heure et du programme.
Ça part de l'ouest de Paris et ça finit à Montreuil.
Voilà, donc et là c'est un peu comme ça, chez Jeannette le matin, c'est dynamique, on boit un petit café, tranquille, c'est calme, il y a une vie de quartier. Vers 18-19h, on est encore... Bon, le midi, c'est les gens de la musique dans le coin qui déjeunent parce qu'il y a pas mal de studios. Et à partir de 19h, il y a un glissement qui s'opère, il ne faut pas rester trop longtemps. Parce que si on a le pied encore dedans aux alentours de 20h...
Alors c'est foutu.
C'est foutu. Il y a quelque chose qui se resserre comme ça. Les gens se resserrent autour de vous. Et puis il y a deux bars qui se font face. Mais ça c'est. Alors ça c'est vraiment c'est sublime et grotesque. Mais vraiment il y a deux bars qui se font face. Et les gens passent de l'un à l'autre comme d'une rive à l'autre. Et devant il y a des sortes de barrières pour les fumeurs. On est entassé alors que la rue est vide. Hein. Tout est vide. Il y a des bars partout. Mais les jeunes gens qui veulent draguer. Et puis tous les plus belles gens du quartier là.
C'est hyper délimité, il y a des videurs un peu, tu vois, devant ces espèces.
Alors
de...
tu passes de l'un à l'autre comme ça, il y a 4 mètres, mais ficelle. T'as l'impression d'avoir fait un monde. Et c'est du nouveau quoi. Quand tu
et en plus, c'est un peu deux écoles, t'as chez Jeannette et.
Bah, ce qui me rassure, c'est que je vois que Paris est toujours Paris quoi.
Ah ouais, ça.
On se retrouve tout de suite.
Frédéric Tadéhi, en balade avec Feuchaterton sur Europe 1.
Le 8 février auront lieu les Victoires de la Musique, victoire où est nommé le groupe Feu Chatterton, qu'on retrouve tout de suite en balade avec Frédéric Tadéhi sur Europe 1.
Nous sommes avec Arthur et Clément de Feu Chatterton. Feu Chatterton dont le dernier album est nommé aux Victoires de la Musique dans la catégorie meilleur album rock. C'est important les Victoires de la Musique pour un groupe tel que vous qui va jouer au Zénith.
C'est important pour nos parents, beaucoup.
c'est eux qui sont devant la télé.
C'est comme une couverture de magazine, ça leur permet de se dire que bon bah en fait on fait quand même un métier un peu sérieux.
Plus sérieusement, le véritable intérêt qu'on peut y trouver, c'est que quand on est sélectionné, on peut se retrouver à jouer à la télé. Et ça
c'est pas
nous,
mal.
Faire de la musique devant du monde, c'est ce qui nous botte. Après,
vous saviez que c'est dans Ce soir ou jamais, l'émission que j'animais, que vous avez fait votre première télé.
Ouais, c'est vrai.
C'est vrai.
On avait joué.
Malinche.
Ouais.
Après, vous êtes revenu pour Boeing.
Bah, tu vois, ce genre de moment, c'est important pour un groupe parce que il y a tout un tas de personnes qui n'ont pas accès facilement à notre musique, qui peut la découvrir. Maintenant, ce genre d'honneur, il faut pas se mentir, les Victoires de la Musique, c'est un peu spécial.
Ouais.
C'est un prix qui est décerné par les gens qui vendent la musique. Donc, comment les trouver objectifs?
Bah si, ils vont voter pour ceux qui sont susceptibles de vendre de la musique.
Pour eux, pour leur écurie.
Mais est-ce qu'on vend encore des albums? Parce que toute la musique parle d'albums. Mais en fait, ça se vend plus les albums. Et je me demande même si les gens en écoutent encore. Je suis sûr que vous avez beaucoup travaillé sur l'Oiseleur pour qu'il y ait une cohérence, pour qu'il y ait un ensemble. Mais est-ce que vous connaissez une personne qui a écouté l'Oiseleur en entier ou qui l'écoute régulièrement?
En fait, on se sent privilégié et peut-être un peu rare aujourd'hui ou bizarre. C'est vrai, les albums, chez nous, il y a énormément de gens qui les achètent encore en physique.
Ouais.
Ce qui est très rare, c'est-à-dire un groupe de notre âge fait notre musique. Généralement, bon...
On achète 3 ou 4 titres
sur
Internet, iTunes.
Quoi, et ça tourne en streaming et tout ça.
Et qu'est-ce que c'est que d'avoir du succès aujourd'hui? Autrefois, on savait bien, avait du succès. Quand on avait du succès, on avait une maison avec une piscine. C'était ça, le succès dans la chanson. On vendait des 45
aujourd'hui,
tours.
Aujourd'hui, on est en coloc dans un...
On
dans
disait qu'on avait vendu des millions de disques, c'était des 45 tours, c'était pas des 33 tours, mais enfin, c'était quand même des millions de disques. Mais aujourd'hui, c'est quoi le succès?
Déjà, c'est faire Ce soir ou jamais, au moins une fois dans sa vie.
Ça, c'était en autrefois, live. Mais ça n'existe plus. Mais sinon, non, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est d'avoir été beaucoup vu sur Internet. J'ai l'impression que c'est ça le succès.
Ça fait partie du succès, mais
et d'avoir des gens qui viennent nous voir en concert.
C'est surtout ça. C'est surtout ça, en fait. C'est surtout de remplir des salles. Ça, c'est quand même quelque chose qui est hyper important.
Là, vous sortez de combien de mois de tournée?
Ça fait 11 mois qu'on tourne.
Ouais,
et on va tourner encore 3 mois, 4 mois.
Et vous faites des salles pleines à chaque fois.
Ouais.
Donc vous êtes un groupe à succès. Vous êtes vraiment le groupe phénomène de ces dernières années en France.
On a du succès quand quand on sent que quelqu'un a vraiment été pris dans son cœur par ce qu'on fait. Bon, ça peut être un peu démago dit comme ça, mais c'est...
Il vaut mieux qu'il n'y ait pas qu'une.
Qu'une, voilà, il vaut mieux qu'il n'y en ait pas qu'une.
Mieux qu'il y en ait beaucoup.
Le fait que les salles soient pleines, ça c'est concret pour nous. C'est un truc, t'es pas dans ce fantasme vain d'une notoriété inutile, parce que ça mène pas à grand chose simplement d'être connu. Mais en revanche, quand t'es sur scène, tous les soirs, devant un parterre de gens avec qui tu communies et t'échanges, purée, ça c'est concret. Et ça en plus, ça fait pas voir le melon.
Et puis surtout, ça reste, tu vois, quelqu'un qui vraiment t'a vu en concert pendant une heure et a apprécié, il va plus rester et continuer à vouloir t'écouter sur la durée que quelqu'un qui t'a écouté en streaming une fois ou à la radio. C'est hyper important.
Là, alors, il faut dire pour... nos auditeurs, qu'on est à l'angle de la rue du Faubourg-Saint-Denis et de la rue du Château d'Eau et qu'il y a énormément de gens qui passent d'ailleurs et tous habillés différemment de façon très originale. Et on a l'impression d'être un peu à Brooklyn.
Ouais, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu Bedford Avenue ici. Là,
Il y a des
c'est
petits hôtels, beaucoup de bistrots, des gens qui poussent des caddies vides.
Il y a des kebabs, des boulangeries... des marchands de sommeil, des hôtels de luxe,
des concept stores, des fromageries qui font fleuristes, il y a des trucs drôles.
Mais ce qui pourrait être violent en fait est chouette parce que c'est convivial. Quoi. Mais d'ailleurs c'est drôle parce que quand on était plus jeune, quand on avait 18 ans...
Excusez-moi, comment allez-vous?
Ramzi, tu connais Arthur?
Je connais, oui,
de
je
Feu Chatterton, Clément Doumic, bonjour. Ouais.
Et comment je fais, moi?
Eh ben, tu viens dès que tu veux.
Tu m'appelles. Là, tu vois, c'est
toi aussi, bon, t'habites.
Ouais. Le meilleur quartier de Paris.
Ouais. Eh oui.
Bah oui. Bon, allez. Bonne journée.
Salut.
Ça fait plaisir de te revoir.
Moi, de même.
Tiens,
au revoir.
Salut.
Bah, écoutez, je vous propose de passer L'Oiseau. C'est votre dernier grand succès. Et je l'aime beaucoup.
Au bord de l'eau, un pigeon défunt. Pour un oiseau. Mais quelle drôle de fin. Sur la plage échoue sans cesse, jeté par les vagues, échoue sans cesse. Là-bas, à présent l'orage dort sous la grève. Tout corps et tôt, le sable s'élève. Puis c'est l'oiseau foudroyé dans le creux de mes pas. Reposer, viens là. Le soleil perce l'oiseau gris de ses raides et doux rayons comme des aiguilles et une poupée vautou. Le soleil perce l'oiseau gris de ses raides et doux rayons comme des aiguilles et une poupée vautou. Arrive-t-il d'un pays lointain? Se vola-t-il au regard éteint? Moi je crois revenu, apeuré et nu, du fond de ma mémoire rétive. Alors du temps qui passe, je remonte le cours jusqu'à l'impasse. Où gisent mes amours, espérant trouver des plumes, un souvenir de plus.
du pauvre oiseau. Reconnu, le soleil perce l'oiseau gris de ses rêves et doux rayons comme des aigus, une poupée vaudou. Le soleil perce l'oiseau gris de ses rêves et doux rayons comme des aigus, une poupée vaudou. Viens que je te mette à bruit des lourds lumineux, de l'astre enfantin qui appuie sur les plaies de tes yeux. Viens que je te mette à l'abri des longs doigts lumineux, de l'astre enfantin qui appuie sur les plaies de tes yeux. Pigeon de mon cœur, pigeon de mon cœur, épine, tu es le remords, infatigable oiseau moqueur. Pigeon de mon cœur, épine, tu es le remords, infatigable oiseau.
C'était l'oiseau. Le dernier tube de Feu Chatterton, je dis tube, mais en fait, vous imaginez, il y a 30-40 ans, vous en auriez vendu des millions de 45 tours. Vous n'avez pas la nostalgie de ça? Se dire à l'époque, l'économie de la musique, de l'industrie musicale, reposait sur quelque chose de plus palpable, qui était le disque, on en vendait, on était riche.
C'est ambivalent. Il y a des jours, c'est vrai, où on aimerait bien être au bord d'une piscine qui nous appartient.
On a loupé le coche, hein.
C'est arrivé un peu tard.
On a des abonnements Spotify, c'est déjà pas mal. Oui.
Mais comme, non, le pire, c'est ceux qui ont connu la fin de ce système. Parce qu'ils sont, ouais. ils ont goûté à quelque chose de différent. Nous.
Vous êtes arrivés trop tard.
Ouais, mais du coup, on aime l'aspect artisanal du métier. De se sentir, je sais pas, il y a un truc simple et concret.
Ce qui est pratique, c'est qu'on est arrivé tellement dans le bas de la vague que ça peut que remonter là. Et c'est ce qui est en train de se passer d'ailleurs.
Et c'est en train de remonter, mais ouais. Plus pour les maisons de disques que pour les artistes. Vous avez remarqué, c'est plutôt les maisons de disques qui gagnent de l'argent.
C'est les plus intelligents, ils se disent.
Bah ils ont plus de temps à s'occuper pour penser à ça. Nous, on doit écrire des chansons quand même et puis être sur la route, quoi.
Europe 1. Et ben on part sur la route avec Feu Chatterton.
Frédéric Tadéhi en balade avec Feu Chatterton sur Europe 1. Pour la suite de leur balade avec Frédéric Tadéhi, le groupe Feu Chatterton a décidé de nous présenter l'auteur de la célèbre moustache d'un des membres.
Nous voilà dans la rue d'Anguin avec Arthur et Clément de Feu Chatterton. La rue d'Anguin, c'est la rue de Greenpeace, hein, c'est là qu'est le siège
c'est
de
vrai,
Greenpeace.
C'est vrai.
Et c'est là qu'était le siège de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2005.
Exact, c'est vrai. C'est aussi la rue du centre Ahmed Kaya, centre culturel kurde.
Kurde,
ouais.
Voilà, bah, Capot qui est là, on va en parler.
Qui dort, on passe effectivement Capot. Devant Capot, celui que vous appelez Capot donc dans le quartier.
À cause des capots de voiture.
Qui est sur les capots de voiture. Alors là, on passe devant des restaurants thaï, des boutiques de massage.
Et voilà, Prestige Coiffure, c'est là.
Et qu'est-ce que c'est là, Prestige Coiffure? C'est là où ouais. Ah, ils ont l'air de connaître Arthur.
Ça va?
Bonjour.
Bonjour.
C'est ici, il y a la moustache d'Arthur, la célèbre moustache d'Arthur, c'est ici.
Ouais, non, parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est un très 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 grand barbier.
Ah oui,
ouais, ouais,
donc c'est plutôt la barbe.
Ça fait 26 années que je suis au coiffeur.
Et c'est vous qui lui taillez la moustache?
Oui.
Et elle est bien, sa moustache? Elle est facile à entretenir?
Pas mal.
Ça va mieux. Mais t'as pas un nécessaire à moustache quand tu pars en tournée? T'es
si,
bien
si, si, je me débrouille. J'ai une petite trousse avec des ciseaux. Des ciseaux très précis, ouais. C'est des ciseaux particuliers parce qu'il faut que ce soit vraiment très fin. Et une sorte de pâte naturelle, crème d'anchois, pour bien sculpter. Mais quand on vient ici, c'est beaucoup mieux. C'est plus...
Comment ça t'est venu la moustache? Parce que c'était rare maintenant. Tout le monde reste parasé, mais là, c'est une vraie moustache, quoi.
Ouais, c'est vrai.
T'avais quelque chose à cacher?
Non, j'ai une lèvre supérieure très grande, contrairement à... Là, c'est une chanson de Brassens qui dit dans La Fessée.
Qu'est-ce qu'il dit, Brassens?
Non, dans une chanson qui s'appelle La Fessée, il vient veiller un ami qui est mort à l'église. Il se retrouve seul avec la veuve. Il commence à sympathiser. Bon, finalement, il finit sur ses genoux elle finit sur ses genoux à lui et elle lui dit, ah, vous avez une moustache en tablier de sapeur. Elle l'embrasse. Il dit, je craignais qu'en dessous, vous ayez un bec de lièvre. Vous cachiez ça. Et alors lui, au lieu d'être offensé, parce qu'elle a pensé qu'il avait un bec de lièvre, il dit, comment ça, ma moustache en tablier de sapeur? Fessé. Voilà, merci beaucoup.
Merci.
À bientôt.
Et bonne année.
Bonne année à vous, bonne année à tous.
Au revoir.
Plein de bonnes choses pour le salon. Merci beaucoup. Et là, donc en face du siège de Greenpeace dont tu as parlé, il y a la porte du studio de Samy.
De Samy Osta.
Samy Osta.
Votre producteur.
Qu'on a rencontré dès notre premier EP, donc mini-album, au tout début du groupe. Et qui
c'est donc 2014.
Ouais. Et qui a enregistré toutes nos chansons, en fait. Depuis...
Ici même.
Non, avant, il n'avait pas ce studio.
On était dans un autre studio juste à côté qui était tout petit. Il s'est construit ce studio, il a fait un truc assez gros.
Donc là, on est dans
une
très belle cour avec des échafaudages, puisque tout Paris est couvert d'échafaudages.
On va descendre.
On s'enfonce les sous-sols de la maison.
Hop là. Donc là, il y a plusieurs studios. Là, il y a le studio de Chab, là, il y a un ami qui est musicien. Et voilà la porte de.
Il y a écrit ne pas jeter les mégots. Il y a une petite cour pour pouvoir aller fumer. Il y a des guitares.
Hey. Et voilà Samy Osta. Salut.
Bonjour. Et bien on se retrouve tout de suite avec Samy Osta, le producteur légendaire désormais de Feu Chatterton.
Frédéric Tadéhi en balade avec Feu Chatterton sur Europe 1.
Le groupe Feu Chatterton continue de faire les présentations durant leur balade avec Frédéric Tadéhi. Et cette fois-ci, c'est quelqu'un de très important pour eux.
Nous sommes donc chez Samy Osta, le producteur depuis le début de Feu Chatterton. Producteur, je disais, désormais légendaire, parce qu'il y a Feu Chatterton, mais il y a la femme aussi, il y a Rover. On a l'impression que vous êtes le Phil Spector de notre époque.
Waouh. Je suis peut-être un peu moins méchant que Phil quand même.
Phil est en prison, il faut dire, maintenant,
ouais,
depuis un certain nombre d'années. Comme beaucoup de producteurs américains, d'ailleurs, il n'est pas
vrai.
Le seul. Hein.
C'est vrai.
Quand on parle de producteur, on pense artistique, on pense plus, mais on peut penser aussi financier. Mais en ce qui concerne Feu Chatterton ?
Non, je suis juste réalisateur, c'est-à-dire que là, c'est purement artistique.
Donc ouais. C'est vous qui donnez la couleur dont parlait Arthur ?
C'est avec moi qu'ils discutent de la couleur, c'est avec moi qu'ils échangent sur ce qu'ils ont envie de faire.
Ce qui est drôle, c'est qu'en France, on a l'impression que la couleur, on la donne en fonction des mots, des paroles, pas tellement en fonction des notes. Les Américains, c'est la musique qui est devant, les paroles, ils s'en foutent, c'est du niveau d'une rédaction de sixième en général. Chez nous, et en particulier avec les textes d'Arthur Teboul, ici présent, on veut rivaliser avec Baudelaire, avec Rimbaud, avec Mallarmé... tout cas avec Jacques Brel et Barbara.
Ouais, plutôt. Mais non, après, j'espère qu'on fait un peu les deux. Le groupe étant complètement au service aussi des paroles. Et donc, chaque note sert à souligner un mot, une idée.
C'est ça, c'est
une
les paroles devant. Hein.
Ah, les paroles devant. Mais...
Même dans le rock.
Ouais, je sais pas. Des fois aussi, les paroles ont souligné la musique. Ça dépend des titres.
Moi, je leur dis toujours qu'ils font du rock littéraire. D'accord, Arthur ?
Je suis d'accord, mais il y a un paradoxe près, c'est-à-dire que la littérature, elle est destinée à être vue, c'est graphique, c'est couché sur du papier. Et c'est pour ça qu'il y a comme toujours un quiproquo, mais qui est plaisant. Quand j'ai découvert Gainsbourg au lycée, j'ai cru que j'aimais ses poèmes. Non, j'aimais ses chansons. Et une fois que j'écrivais le texte sur un papier...
Ça tenait plus.
Ça tenait moins bien. Mais en fait, longtemps j'ai pensé qu'un texte qui tenait moins bien sans la musique était un mauvais texte. C'est le contraire. Une bonne chanson en français, c'est une chanson qui, une fois le texte, dévêtue de sa musique, c'est-à-dire une fois qu'on lit le texte seul, eh ben on est déçu. On a fait ce genre de tentative. Maintenant, quand on écrit, j'arrive très rarement avec un texte achevé en disant « on va le mettre en musique ». C'est beaucoup plus ouvert. J'ai des notes, des mots, des phrases, et on travaille ensemble avec du va-et-vient. Ce qui est beau dans la chanson, c'est qu'en fait, à un moment, il y a une union, quelque chose éclate comme ça, ou éclot. Le mot est révélé par une musique, c'est devient de la magie. Et le contraire.
Parce qu'il arrive parfois que je ne comprenne pas du tout de quoi parle la chanson de Feu Chatterton.
C'est vrai, aussi, c'est aussi vrai. C'est aussi
est-ce
vrai.
Que Clément...
Moi non plus, pareil. Aucune des chansons d'ailleurs.
Il n'y a qu'Arthur qui comprend.
C'est Arthur, c'est ça.
Ce disque-là, par exemple, J'étais hyper content. Loiseleur, pardon.
Déjà, c'est incroyable comme titre pour un album en 2018, Loiseleur. Le précédent, c'était...
Loiseleur était encore plus compliqué.
Ici, le jour, Ici, le jour, tout enseveli.
Ici, le jour, tout enseveli.
Mais alors, pour Loiseleur, je pars écrire à un moment seul, quoi, pendant quelques mois. C'est une entreprise, là, pour le coup, qui est littéraire, qui est purement poétique. C'est un chemin personnel, une quête esthétique d'écriture. Et je reviens en étant hyper fier en disant, les gars, franchement, là, j'ai simplifié, quoi. C'est beaucoup plus clair. Et puis, au bout d'un quelques semaines de travail, ils osent me dire, tu sais, Arthur, c'est bien, c'est super bien. Mais c'est pas vraiment plus simple qu'avant.
Clément, non?
Non, c'est vrai, on simplifie beaucoup. C'est vrai qu'Arthur raconte cette anecdote où il arrive avec des textes où on se dit, bon, bah, c'est super, on a des textes, on va pouvoir avancer sur quelque chose. Et en fait, c'est un peu lourd, c'est des trucs qu'il faut changer. Mais après, finalement, dans la musique, on fait vachement ça aussi. Parfois, on est tout seul et on fait... Enfin, je pense, Samy peut te raconter des maquettes qu'il a écoutées au tout début du groupe où c'était... Je pense qu'on était les seuls à comprendre ce qu'on faisait, tu vois.
C'était comment, les maquettes?
Il définit ça comme de la machina italienne, je crois.
C'était de la machina italienne complexe. C'est-à-dire que danser dessus, ça révélait d'une réelle puissance cérébrale. Mais en fait, ce qui marchait déjà, c'était que cette musique complexe et ces textes tout aussi complexe, faisait un mélange, ça faisait une boule quand même intéressante, quoi.
Mais le fait de travailler ensemble avec toi, c'est là aussi qu'on arrive à simplifier les choses et à clarifier le propos et à arriver vraiment sur quelque chose de précis.
Où est la musique aujourd'hui? Moi, j'ai l'impression qu'on n'a rien inventé de nouveau en tant que forme de musique. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de bons disques, qu'il n'y a pas de bons groupes ou de bons interprètes.
Question piège, ça.
Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas, on n'a pas inventé de nouvelle musique depuis 25 ans, au moins 30 ans peut-être.
Non, je ne dirais pas aussi longtemps que ça.
Bah, la techno, c'est le début des années 90.
Oui.
Le rap, c'est 73.
C'est vrai, mais
le rock, je t'en parle pas.
Il y a une évolution quand même technologique qui a amené ces musiques à les instrumentales, en tout cas, sont allées ailleurs, quoi. Aujourd'hui, la musique qu'on entend le plus à la radio, le rap en tout cas, c'est fait avec mille fois moins de choses qu'il y a 30 ans, que quand le rap est né, quoi. Le rap est né avec des samples, avec une recherche, une culture musicale obligatoire pour trouver des vinyles, les sampler et en faire une nouvelle, quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, tout le monde a le même pattern, quoi. C'est le même rythme. Toutes les chansons ont le même...
Et quant à la pop d'aujourd'hui, on a l'impression qu'ils veulent tous imiter la pop des années 80. Ils ont racheté les mêmes instruments. Et à part 80, Feu Chatterton, ouais, qui sonne différemment, les autres, j'ai l'impression, sonnent souvent tous de la même manière.
Je suis totalement d'accord. C'est aussi parce que c'est une musique qui permet de ne pas être très bon musicien. C'est une musique qui est dirigée par des machines. Les années 80, ça a été vraiment l'avènement de ces choses-là. Donc, c'est des musiques faciles à composer, faciles à mettre en place, faciles à aboutir à un produit fini. C'est beaucoup plus simple que de prendre un batteur, un bassiste, deux guitaristes, un poète et d'arriver à faire un truc cohérent. Ça, c'est très long, en fait. C'est beaucoup plus long. Mais beaucoup plus intéressant, à mon sens.
Eh bien, je vous propose d'écouter un autre de vos succès. Et ils vous le doivent aussi, celui-là, j'imagine. Samy Eustace et Boeing.
J'ai juste participé autant que donc.
Mais par rapport à la maquette, ce qu'on va écouter là, par rapport à ce qu'ils avaient apporté au départ,
c'est hyper différent.
Très différent.
Mais ce titre-là, il y a quand même, il y a une vraie histoire où le passage en studio avec Samy a été décisif. C'est que on savait que la chanson était là, mais on était complètement bloqué. Il n'y avait pas grand chose à part la composition, et notamment il n'y avait pas la ligne de basse. Et
pattern de batterie non plus.
Et on était à Göteborg, on était en Suède, et puisqu'on a écouté une phase B de Gainsbourg, et on s'est inspiré d'un pattern. Et en fait, les choses c'était une proposition de Samy, et les choses se sont accélérées.
Ah non, c'était en mélodie.
Exactement.
Et la ligne de basse a jailli comme ça de ce moment-là, mais on était en studio déjà à ce moment-là.
Je me souviens juste d'un truc qui nous arrive très très rarement quand même. C'est l'image qu'à la fin de Boeing, quand on avait enregistré la ligne de basse et de batterie, je ne sais pas pourquoi, c'est une des seules fois dans notre vie ensemble, on l'a sauté en étant hyper heureux d'avoir trouvé ce groove, quoi. On était content de la tournure du morceau.
C'est compliqué, ce titre. Il parlait d'un avion quand même.
Eh oui.
Et juste de
c'est le seul truc qu'on comprend d'ailleurs.
Non, c'est ça à comprendre.
Non, attends, parce que c'est vrai que c'est un des textes les plus abstraits de notre discographie. Et ça nous plaisait bien, on aime bien les grands écarts.
Moi, ce que j'aime surtout, c'est la mélodie, parce qu'en fait, il y a une vraie mélodie dans cette chanson. Il n'y en a plus tellement aujourd'hui, on va l'écouter. Après tout ce que vous en avez dit, peut-être que tout le monde est parti déjà. Mais...
d'azur, de laine, sans rocher pousse ton lichen de l'air. Que cache ton immensité? Que cache ton immensité? Bête de tôle, mais lesquelles
qui crient quand siffle le nickel au ciel. C'est drôle non plus de densité. C'est drôle non plus de densité. Boïc, boïc, et tes mouvements lançons de majesté. Boïc, boïc, est-ce la faute de tes passagers indigestes? D'azur aux arbres pour passer l'ennui. Tant de têtes de tes nuésures, chimères, ces fantômes peuplent ta cité. Blanc jardin suspendu aux heures du jour, ta forêt de vapeur abrite notre monstre électricité. Notre monstre électricité. Boïc, boïc, et tes mouvements lançons de majesté. Boïc, 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 est-ce la faute de tes passagers indigestes? Si tu penses, boïc, boïc, et tes mouvements lançons de majesté. Boïc, 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 est-ce la faute de tes passagers indigestes?
C'était Boeing par Feu Chatterton. Maintenant, vous pouvez bien le dire, ça parle de quoi?
Mais alors, vous les habitants,
ça parle d'un ressort en vrai. Tu vois?
Non, c'est un jeu un peu couillon en fait sur l'idée de l'avion et l'idée du ressort. Mais ce qui est marrant, c'est que le texte, pour le coup, seul, graphique, si je vous le dis là, il ressemble à un poème classique. Alors, je vais faire quelques vers pour que vous, sans mélodie, vous dites, ah oui. Ça ressemble à quelque chose de parnassien, un peu comme ça. Je l'ai écrit dans l'avion, d'ailleurs. Je regardais les nuages, je me suis dit, tiens, ça ressemble à du lichen blanc. Là, j'avais pas fumé. Pardon. Jungle d'azur de laine, sans rocher pousse ton lichen de lait, que cache ton immensité. Bête de tôle, mais lesquelles, qui crie quand siffle le lichen au ciel, c'est drôle non plus de densité. Boeing, boeing, et tes mouvements lents sont de majesté. Est-ce la faute de tes passagers indigestes si tu penches à gauche, à l'est, enfin comme un vieil éléphant?
C'est vrai que là, ça marche très bien.
Bah, je l'ai construit comme un...
Mais je vous invite à lire les textes d'Arthur sans la musique. Ça prend une toute autre ampleur. Et
tout à fait.
Beaucoup.
On va tous y réfléchir, on se retrouve dans un instant.
Pour la suite de la balade de Frédéric Taddeï et du groupe Feu Chatterton, on entre dans les coulisses de leur album.
Nous sommes donc au phonographe, on dit ça comme ça, hein, l'entreprise de Samy Hosta. Samy Hosta, réalisateur depuis le début des disques de Feu Chatterton. On est dans la régie, là, la pièce où il y a des boutons sur lesquels on pousse pendant que derrière la vitre s'agitent les musiciens. C'est toujours comme ça que ça se passe. Feu Chatterton, il pourrait être derrière la vitre, là, en train de jouer tous ensemble, comme les Beatles jouaient devant George Martin, au fond.
Exactement, sauf qu'à la différence de George Martin, il m'arrive avec Feu Chatterton d'aller avec eux danser pendant qu'ils enregistrent. Et ça, c'est un grand plaisir.
Alors, à la différence, George Martin, lui, n'avait pas d'écran ni d'ordinateur, comme c'est le cas aujourd'hui. Ça change tout, hein.
Ça change tout, tout dépend de comment on le voit. Moi, je considère l'ordinateur comme un magnéto à bande. C'est pareil, c'est juste un endroit où je pose des idées, des performances de musiciens. J'aime pas trop trafiquer. Je laisse dans les disques que je produis des notes fausses, des choses à côté, des choses qui marchent.
Mais c'est ce qu'on faisait autrefois aussi. On trafiquait, oui. Mais là, on peut trafiquer la bande elle-même.
Oui, c'est
on l'a passée à l'envers.
Mais on pouvait pas autant réparer qu'aujourd'hui. Et la musique qui sort aujourd'hui et qui est populaire est très réparée, quoi. La plupart des gens, ce qu'on entend, c'est pas la réalité, quoi.
Mais il y a toujours eu une musique commerciale, généralement en anglais d'ailleurs, puisque c'est la langue des affaires.
Ben, je regardais la dernière fois Armand Allier qui disait que la musique qui marchait, il faut qu'elle soit vulgaire et il faut qu'elle soit la plus crue et enfin dans la vulgarité la plus graveleuse possible. Et je suis vraiment d'accord et c'est encore d'actualité, à mon sens.
Et ça a toujours été d'actualité,
ouais,
au fond.
C'est vrai. Moi, je l'ai pas connu cette époque, donc je ne peux.
Moi,
que...
je l'ai connu, mais c'était pas si mal que ça la disco, hein. Parce qu'à Mandali, parle de la disco et à la, tu sais, c'est la vendue des disques.
Ouais,
mais c'est dans la disco, il y avait des mélodies merveilleuses. Parfois, il y avait des arrangements prodigieux.
Des grands musiciens, de toute manière.
Et d'ailleurs, il en reste des morceaux inoubliables. Pas tout, mais inoubliables.
Ouais,
à l'époque, le rock a vraiment eu peur de la disco, parce que le rock pensait qu'il était la musique des jeunes éternellement et il y avait une grande réunion dans un stade où tous les amateurs de rock aux États-Unis étaient venus avec des disques disco et ils les avaient tous jetés au milieu du stade et ils y avaient mis le feu symboliquement.
Ah ouais. Ouais.
Et finalement, c'est le rap qui a eu la peau du rock quelques années plus tard.
En fait, le rock a peur tous les 20-30 ans, il se passe un nouveau truc qui fait qu'on l'enterre un peu puis il renaît de ses cendres. C'est un peu un phénix le rock, j'ai l'impression.
C'est beau.
Moi, je suis toujours étonné qu'il y ait encore des jeunes comme Clément qui jouent de la guitare, avec de la guitare électrique. Je pensais vraiment que.
Oui, ça fait un peu accordéon, quoi, pour toi, c'est ça.
Et que ça disparaîtrait.
Mais on se l'est dit à un moment
donné.
Dans le rap, la guitare est revenue. C'est-à-dire, quand, au début des années 2000, les albums de rap qu'on écoutait étaient très produits avec des influences pas du tout rock et électronique. Ouais. Mais, non, mais même là, je veux dire, depuis une décennie, j'ai l'impression que la guitare s'est refait une place dans les productions de rap comme il n'y avait pas avant.
Ouais, Oxmo Puccino, il a fait beaucoup d'albums avec des groupes entiers, beaucoup de guitare.
Oui, mais c'est pas très représentatif de ce qui est à la mode. Il a fait ça comme un truc à côté.
Il a quand même fait, je pense que les rappeurs ont toujours été intéressés au bout d'un moment. Tu vois, jouer avec des vrais instruments. Tu prends Romeo Elvis, en vrai, il prend du plaisir sur scène à prendre une guitare à un moment et à faire une vraie chanson, tu vois. Et c'est assez beau, en vrai.
Musicien au départ,
oui,
Sammy Hostin.
Ouais.
Et c'est pas frustrant quand on est musicien
Pas du tout. Non, parce que justement, je crois que mon métier est plus simple du fait que je sois musicien. Je comprends les gens qui sont de l'autre côté de la vitre, quoi. Et donc, on a un dialogue qui est très simple, justement, et rapide. Et des fois, on se parle même pas et je sais qu'il y a... Il y en a un qui galère sur quelque chose, je le vois en fait, je le sens, je l'entends.
Lequel galère le plus ?
Arthur.
C'est le seul qui n'est pas musicien.
C'est vrai que c'est le seul qui n'est pas musicien, mais je crois que c'est le plus doué des musiciens du groupe.
Et blanc. Clément.
Je vais repartir encore.
C'est la deuxième fois que je vais tailler un costard aujourd'hui.
Je peux parler de lui.
La renommée de Feu Chatterton, ça a attiré beaucoup de monde ici ?
Ça a attiré beaucoup de monde sur mon mail, mais je ne peux pas refaire du Feu Chatterton. Souvent, quand les gens me disent « oui, je vous contacte parce que j'aimerais qu'on fasse... je suis très proche de la musique de Feu Chatterton, faire ça comme ça », et je leur dis bah, « je ne peux pas le faire, en fait. C'est Feu Chatterton qui le fait, ce n'est pas moi. Moi, je ne fais que prendre une photo de ce qu'ils font, quoi. »
Et la retoucher un peu.
Je la retouche avec eux, mais je veux dire, par là, je ne peux pas le créer tout seul, avec quelque chose d'autre, quoi. Impossible. La matière première, c'est eux. Donc, non. C'est comme quand on me demande de faire de La Femme, c'est impossible.
La Femme, qui est un autre groupe qui marche bien aussi. Et tout ça, ça a créé beaucoup de petits Feu Chatterton et de beaucoup de petits La Femme.
Complètement, ouais. Et même des groupes qui sont des sous La Femme ou des sous Feu qui ont plus de succès que La Femme ou Feu Chatterton.
Merci, Samy.
Avec plaisir.
On va continuer notre balade. On a rendez-vous avec...
Avec le reste du groupe.
Avec le reste du groupe, chez Jeannette. On reste dans le quartier.
Dans SSD.
C'est quoi SSD ?
Strasbourg-Saint-Denis.
Ah oui, on l'appelle...
C'est une chanson de La Femme.
On l'appelle ça SSD. À bientôt.
Merci beaucoup.
Frédéric Tadéhi, en balade avec Feu Chatterton sur Europe 1. Europe 1, en balade avec Feu Chatterton. Frédéric Tadéhi.
Nous sommes donc en balade avec Feu Chatterton dans le Faubourg Saint-Denis. Feu Chatterton composé pour l'instant d'Arthur le chanteur et de Clément le guitariste et clavier. On va retrouver le reste du groupe dans un instant chez Jeannette. Là nous sommes toujours dans la rue du Faubourg Saint-Denis. Bah tiens, il y a un concert qui commence dans la rue et on y joue de la trompette d'ailleurs. C'est du jazz New Orleans là.
Jazz d'Arbuca.
Les gens dansent.
C'est mieux que Lourdes, hein, parce que là, le bonhomme qui danse tout à l'heure, il savait pas marcher.
Il faisait croire qu'il était handicapé pour récolter un peu d'argent. C'est un peu la cour des miracles.
Ah, il y a un truc, c'est vrai qu'il y a un truc comme ça ici. C'est marrant parce que quand on était ado et que Clem habitait Gare de l'Est, toute cette rue, vraiment, personne ne la fréquentait. Tout le monde trouvait que c'était une rue vraiment mal famée, rien à faire. Et c'est impressionnant à quelle vitesse Paris se gentrifie, quoi.
Oui.
Ça a mis une petite quinzaine d'années quand même.
Ah, non, mais là, il y a eu un boost en 3-4 ans, il y a eu un truc, non ?
Je l'ai dit, c'est pas non plus un quartier très bourgeois, hein. C'est un quartier très mélangé.
Hein. Non, mais nous, il nous en faut peu. Hein.
Très multiculturel. Non,
je crois vraiment l'ouverture de Jeannette, c'était le gros déclencheur de ce truc-là.
Jeannette, donc, qui est le bar le plus branché, on va dire, aujourd'hui. Bah, on s'approche de chez Jeannette. Justement, ils ont changé de propriétaire, hein, je crois. C'est plus Jeannette. Hein.
Non, c'est fini.
Probablement pas.
Là, il y a le reste du groupe qui nous attend.
Normalement.
Il y a Sébastien Wolf, qui vous a souvent accompagné, Arthur, dans mon émission sur Europe 1.
Ouais, c'est vrai.
Du temps où je faisais le Social Club. Il y a également Raphaël, le batteur.
Et Antoine. Alors, comme prévu, hein, on les voit à travers la vitre. Seb n'est pas là, parce que c'est le plus en retard de tous.
Nous voilà chez Jeannette, son éclairage électrique, son bar central. Bonjour.
Bonjour.
Ça va ? Bon, une toute autre ambiance ici. Hein.
Ouais, là, c'est chaleureux.
Donc ici, vous venez plutôt le soir, le matin, n'importe quelle heure.
Ouais, n'importe quelle heure. Ouais.
Le matin, avant le studio ?
Ah, le matin, vers
13-14 heures.
Puis à 17 heures, un petit grog à emporter.
Alors racontez-moi tous les deux... l'enfer que c'est d'être le bassiste et le batteur d'un groupe de rock.
C'est dans Whiplash, il y a une affiche, il est en train de bosser sa batterie de jazz et il y a un poster, il a marqué « Il a raté sa vie, il a fini dans un groupe de rock ». Moi je faisais du classique avant, donc voilà, c'est un peu ça. Moi je faisais du jazz avant, tu vois, donc c'est ça.
Dans le jazz, un batteur comme Raphaël, on le met devant. Dans le rock, on le met derrière.
Du coup, on est tranquille derrière, on bosse, on fait ses trucs avec son bassiste. Non, en fait, d'un certain côté, c'est quand même agréable d'avoir une sorte de... La protection de ne pas être dans la front line permet par ailleurs de se concentrer
sur les choses vraiment importantes.
Voilà. Exactement. Par exemple, je sais que c'est beaucoup plus facile pour moi d'écouter ce que font les quatre autres et d'être focalisé que sur la musique et sur l'énergie, les nuances, le tempo, que s'il était devant avec la réaction du coup. C'est un autre...
Et pour la basse poste.
Pour la basse, c'est assez ingrat. De toute façon, la plupart des gens disent qu'ils l'entendent pas et tout, donc c'est dur de... C'est dur.
Ou quand on l'entend trop.
Il
n'y
a jamais juste au milieu. C'est l'ingratitude, voilà. C'est exactement ça. Soit on l'entend et que ça veut dire que c'est trop fort. C'est pour dire ah c'était fort, c'est les petits yeux qui disent.
Tu jouais quoi ?
C'est fort la basse, ça sature. Ou sinon c'était mes amis qui me disent mais tu joues quoi ? Parce que ça ressemble à une guitare mais on n'entend pas trop ce que tu fais.
Et par rapport aux filles pendant les tournées, comment ça se passe ?
Par rapport au fait d'être bassiste ?
Ouais.
Je ne vais pas faire de commentaires là-dessus.
Raphaël, tu peux faire des commentaires là-dessus ?
Moi je peux faire des commentaires.
En tant que batteur.
On est moins sacralisé, du coup, elle nous approche beaucoup plus facilement.
Les groupes de rock d'autrefois disaient qu'en fait, les groupies s'adressaient plus facilement aux batteurs et aux bassistes, espérant accéder aux guitaristes et aux chanteurs, et à défaut, restant avec le batteur ou le bassiste.
On doit être plus accessible, on doit faire moins peur.
Là, je vous propose d'écouter La Malinche, qui a été votre premier tube. Mais alors, vu par le batteur et le bassiste, La Malinche, ça donne quoi ?
Tu veux la chanter ? Vous voulez la chanter en suédois ?
Il n'y a pas de ligne de basse. Il n'y a pas de basse, je crois, non.
Oui, mais c'est toi. C'est un Juno synchronisé. C'est toi qui l'as fait.
Ah oui,
sur l'enregistrement.
C'est un synth basse.
Il n'y a pas d'instrument basse.
C'est toi qui l'as fait.
Et côté batteur ?
Ben, l'inspiration, c'est l'électronique. Donc c'est quelque chose de très métronomique, mais tout est joué. C'est pas des boucles. Donc c'est comment garder la puissance et la régularité des boîtes à rythme en ajoutant ce petit imperfection, petit swing
humaine.
Qui fait danser un peu différemment.
Et à la fin du morceau, nous sur scène, on fait une version extended de la Malinche. Et là, c'est beaucoup plus technoïde, rock. Et là, il y a des sons un peu acides.
Et ben, on l'écoute.
Madame, je jalouse selon qui vous caresse. Tristement, la joue. Des provinces andalouses, panaméricaines. Ce vent suave et si doux, Madame, je jalouse. Madame, je jalouse ce vent qui vous caresse la joue en ces provinces andalouses.
lui vient se poser contre votre peau d'acajou. Lui vient se poser contre votre peau d'acajou. Quand je reste à Paname. Oh oui. À chaque missive la vois-je, je crains de vous causer l'ennui, et cette attente comme un missile endolorit ma tête, vois-je, vois-je, endolorit ma tête, vois-je, vois-je, que deux fois passe le jour et vienne la nuit, passe le jour et vienne la nuit. Me reviennent toi sur l'autre rive, et tu avec un autre. Les choses nous échappent, pourquoi les retenir? Par le bout de l'écharpe, si tu te venir, étrange, étrange l'un à l'autre, au cou le souvenir. Étrange, et je reste à Paname. Tu sais de mémoire ancienne te méfier les braves de leur soif inopportune. Combien de lâches sont venus ici courir chimère à coups de fusil. Ivres de gloire ont-ils pensé que ton cœur serait conquis, percé de flèches et de rancœur, comme tes côtes mexicaines de Malinche, de Malinche. Il n'y en aura qu'une. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui.
Ah oui. C'était la Malinche, le premier grand succès de Feu Chatterton.
Chatterton sur Europe 1.
Jusqu'à midi et demi, le groupe Feu Chatterton et Frédéric Taddeï continuent leur balade. Et alors, si vous voulez retrouver Antoine, Arthur, Clément, Raphaël et Sébastien, c'est dans le 10e arrondissement que ça se passe.
Toujours chez Jeannette, le haut lieu noctambule branché du Faubourg Saint-Denis, le QG du groupe Feu Chatterton. Presque au complet aujourd'hui, puisqu'il y a Arthur, il y a Clément qui nous ont accompagnés pendant toute cette balade. Il y a également Antoine à la basse et Raphaël à la batterie. Il ne manque que Sébastien.
Qui est resté au Brésil.
qui est brésilien, qui fait aussi de la recherche en biologie. Alors peut-être qu'il...
Biophysique, si je ne me trompe pas.
Oui, il dirige un labo.
Là, vous allez être au Zénith de Paris le 24 janvier. Donc, grande scène. 6000 spectateurs, ça change quand même pas mal de choses. Vous le préparez comment, ce changement d'échelle?
Ça fait 6 mois qu'on se concentre. Mais c'est vrai que c'est une ligne de mire qu'on a. Enfin, c'est vraiment... Je ne suis pas marié, mais j'ai l'impression que ça se prépare comme un mariage. C'est-à-dire que tu sens venir les choses...
Un mariage, ça se prépare un an à l'avance en moyenne.
Bah voilà, ça fait 11 mois qu'on tourne pour ça.
Et en général, on veut toujours un mariage qui ne ressemble à aucun autre, et à la fin, on a exactement le même que tout le monde.
Ouais, du coup, nous, pour ne pas être déçus, on a décidé de ne pas vouloir un mariage original. Non, mais en tout cas, on a eu quelques fois, à la télé notamment, des expériences qui nous ont montré que ce qu'il fallait être sur scène, c'est ce qu'on est toujours, c'est-à-dire dire à l'instant où on le dit, la chanson, la pensée, être dans l'émotion de la chanson, être dans le partage ensemble et avec le groupe. C'est sûr que dans une grande salle, c'est plus impressionnant, mais on veut éviter tous les pièges du genre « Ah tiens, c'est un jour spécial, je vais mettre mon plus beau costume que j'ai jamais porté, mais en fait, il est mal fagoté. Ah, ce nœud sur la tête, ouais, pas très bonne idée, ou bien on va prendre tous ces choristes. » Et puis en fait, on se retrouve à être dans un spectacle où l'artifice prend le dessus sur la musique. Je pense que le meilleur moyen de rendre un zénith intime et convivial, c'est justement de le mettre un peu nu, quoi.
C'est encore possible de faire un concert convivial, comme on dit, dans une salle de 6000 places. Bon, c'est pas le Stade de France, heureusement, parce que le Stade de France, on regarde même plus les gens s'agiter sur scène, on les regarde sur un écran. Et
La convivialité, elle vient de plusieurs choses. Après, on reste encore, oui, donc vers 5000 personnes. La convivialité, elle vient aussi du public, de qui vient voir, qui est notre public. C'est la première fois qu'on peut avoir tout notre public parisien d'un coup. Parce qu'on a toujours enchaîné plusieurs soirs, donc pour nous, il y a un côté un peu grande fête en un seul soir. Donc on compte sur eux. Mais après, pour ce qui est de la transmission de l'émotion, pour nous, justement, c'est le défi qu'on veut. On pose une question presque avec ce zénith. Nous, on va aller le plus purement et le plus sincèrement jouer notre musique avec notre scénographie habituelle, sans mettre vous voyez, des flammes et des danseurs.
Vous n'allez pas être mieux habillé que d'habitude.
Si, hein, on va être un peu mieux habillé que
Arthur. On va peut-être faire un effort.
On va faire un petit
effort. C'est quelque chose que je vous avais dit la première fois que je vous ai vu. Vous étiez venu
à la télévision.
Non, que lui, vu qu'il était bien habillé, vous ne pouviez pas continuer de vous habiller aussi t-shirt derrière, comme c'est... si vous sortiez.
Non, mais c'est vrai qu'on m'a fait beaucoup de réflexions au début. Quand j'ai commencé les premiers concerts, je me suis réprimandé. Alors. Maintenant, je mets des chemises.
T'as pas eu la réflexion de Frédéric en direct à la télé à Seb qui lui a dit mais faut pas venir en pyjama.
C'était pas parce que c'était la télé, c'est parce qu'effectivement moi je pense toujours aux grands jazzmen qui étaient habillés comme des princes sur scène. Ah oui. Et par égard pour le public qui s'est déplacé pour les voir, j'irai pas jusqu'à dire qu'il faut mettre le costume la meilleure d'Elvis Presley, parce que ça c'est le côté bling bling du rock.
Si notre public s'habille vraiment bien et fait un effort, je m'habillerai bien.
Ah, tu vas choisir son costume au dernier moment.
Donc concert normal.
On fait pas de la politique là, on n'est pas dans la campagne présidentielle. On tire pas sur le filon de la normalité. C'est pour ça qu'on assume de se faire beau quand même. Parce que là, tu nous as pas vus depuis un moment, mais maintenant on se fait beau tous.
Je vous ai vu au Bataclan, je vous ai vu à votre concert à Radio France.
Non mais je pense que c'est marrant parce qu'au départ, par exemple, Raphaël a beaucoup souffert de nos remarques sur les sapes.
Parce qu'en jazz, aujourd'hui, c'est plus du tout ce que c'était
à l'époque.
Il
nous disait qu'on était vaniteux, superficiel, cosmétique. Mais je pense qu'avec le temps, et puis on a discuté récemment, la musique, c'est une affaire de style et aussi pour une raison simple. Quand on arrive sur scène, c'est un spectacle. Avant de prendre la parole avec l'instrument et la voix, eh bien, on se montre. Et donc, il faut que les gens soient tout de suite dans ce spectacle. La tenue, la démarche. Moi, j'ai toujours cette anecdote en tête, je ne sais pas si elle est vraie, une légende urbaine sur Miles Davis, qui venait d'embaucher un batteur ou un percussionniste. Et il dit, viens, on va boire un coup. Et le batteur marche devant lui, dans la rue, et lui dit, non, en fait, je ne peux pas t'embaucher. Tu as une démarche qui n'est pas en rythme. Tu n'es pas bien rythmé, ça ne va pas. Je sais que ça ne va pas être bon. Tu marches mal, quoi. Bon, c'est extrême, c'est absolu, mais... Ça dit quelque chose qui n'est pas seulement de la pure vanité, c'est pas du costume pour. C'est pas du maquillage, c'est pas superficiel. C'est du spectacle, c'est de la magie. Ça demande un costume, une solennité et un respect.
Antoine.
C'est un peu dubitatif, je trouve ça très, très extrême quand même. Mais je vois ce que. Il y a les chemises et il y a comment on les porte. Enfin, en fait, là, par exemple, ce percussionniste, c'est même pas. C'est une histoire aussi de présence. Quelle présence t'as
là,
sur scène?
Mais
voilà, mais justement, c'est ça qui est intéressant, ouais. C'est quelle présence t'as sur scène. Même d'ailleurs avec des vêtements qui peuvent être sobres.
Exact, t'as raison.
Juste la présence d'un musicien, comment il véhicule sa musique dans tout son corps.
Disons que le costume aide. Bien sûr, un type qui a déjà toute cette expérience de la scène, il n'a pas besoin de cet attirail, il n'a pas besoin de se préparer comme pour aller avec sa cuirasse. Il peut être en slip si sait se tenir. C'est comme s'il avait son costume de prince.
On se retrouve tout de suite.
Frédéric Tadéhi, en balade avec Feu Chatterton sur Europe 1. Comme chaque dimanche, Frédéric Tadéhi vous emmène en balade dans les rues de Paris. Et aujourd'hui, c'est un groupe qui l'accompagne, Feu Chatterton.
Toujours chez Jeannette, l'établissement se remplit de plus en plus. Énormément de gens autour du bar. Il y a des verres cassés, pilés. Et nous sommes là avec Feu Chatterton. Aujourd'hui, Ça va faire bientôt 5 ans que le groupe existe réellement, qu'il sort des disques, que vous faites des tournées interminables, que vous avez du public, que vous êtes connu. Vous l'expliquez comment, rétrospectivement ? Pourquoi ça a si bien marché ?
Antoine a commencé à bien s'habiller, je pense que ça...
C'est Clément qui dit ça.
Non, c'est... Je pense que c'est une question qu'on peut se poser tout le temps et c'est pas trop quand est-ce que ça prend racine. C'est quand même des choses un peu extraordinaires et qui donnent un peu le vertige de dire qu'on se rencontre il y a plus de 15 ans.
Au lycée.
Et c'est plus de 10 ans après cette rencontre que le groupe, après des années d'amitié, d'expérimentation musicale et tout, commence à décoller. Mais je pense que peut-être qu'on est arrivé au bon moment ou un moment où la musique en anglais était vraiment totalement invasive sur les radios et dans les ventes de disques. Et il y a eu tous ces groupes qui nous ont un peu précédés, La Femme, Grandville, mais à l'époque, qui ont recommencé à faire rentrer le français dans la pop et dans la musique qui marchait et qui remplissait les salles. Et nous, on faisait ça depuis le début, on a toujours fait de la musique en français, on ne s'est jamais posé cette question-là. Et en gardant cette ligne-là, en fait, on a senti qu'il y avait, cette ouverture à ce moment-là, et ça a concordé au moment où on a commencé à faire beaucoup de concerts.
Je trouve que c'est une explication un peu rétrospective sur un phénomène inexplicable et en plus un peu socio-ethno pour ne pas. Il y a eu ça, mais ça c'est.
Moi, ce que j'essaie de dire,
c'est un concours de circonstances. Mais en vrai, je pense qu'il y a. C'est d'abord une ténacité, c'est-à-dire c'est juste qu'on est dans la même ville et qu'on fait de la musique depuis 10 ans et qu'on ne s'est pas arrêté.
Ça, c'est certain.
Et donc, on a la façon qu'on a eu de faire de la musique, elle a muté. Ça veut dire toujours en faire et toujours aimer en faire. Et donc, quand tu es dans cette forme de quête qu'on a ensemble, et un jour tu te dis non, il faut qu'on change de direction, parce que sincèrement, tu trouves une nouvelle voie et tout, cette excitation, elle t'amène quelque part, j'ai l'impression que c'est cette... C'est une forme de, je sais pas, de travail, d'artisanat qui nous a amené là. Oui,
c'est juste que la source du truc donne un peu le vertige parce que c'est tant d'années, c'est 15 ans quand même de connaissances. Et pour savoir à quel moment,
il n'y a
pas vraiment de moment de déclic. Tu parles de 5 années, c'est-à-dire 2014, de début, on fait des disques. En fait, je pense que c'est beaucoup plus ancien.
Ouais.
Et le fait de rencontrer aussi les bonnes personnes ensuite dans la section rythmique qui sont des amis d'amis aussi. C'est pas, on n'a pas embauché des gens, tu vois, pour leur qualité technique au début. Et ensuite, ça se transforme. Et ensuite... Le travail et l'explication aussi par ça.
Parce qu'on aurait pu être dans le vent et puis au moment où c'est passé et puis tomber complètement au moment où ça passe. Enfin, c'est qu'il y a la longévité entre guillemets du projet.
Et c'est vraiment un enfer la vie de groupe. C'est-à-dire vous, surtout vous qui passez beaucoup de temps sur la route en tournée, donc il y a une sorte de cohabitation
professionnelle.
Plus du tout.
Moins en tout cas. Ça a été peut-être un enfer sur la première tournée parce que ça a été la découverte de la vie collective. Mais en fait, je pense que là, on a commencé à atteindre un niveau de compréhension des autres, enfin, c'est un peu, ça peut sonner un peu niais, mais vraiment d'amour des autres, c'est-à-dire d'amour même des défauts, quoi. Ok, il est comme ça, je suis comme ça, et ça me saoule chez lui, mais en fait, en vrai, avant tout, et ce truc-là, on l'a construit avec le temps.
Parce que c'est quand même drôle dans l'histoire des groupes. Les groupes, ça commence avec les Beatles et les Rolling Stones. Ça, avant, il n'y en a pas, mais pas de vrais groupes. Et on voit qu'ils finissent tous par se détester.
Que nous, plus ça va, plus on s'apprécie.
La première tournée, ça a été comme un couple qui traverse une très très grande tempête. Et de l'avoir dépassé, après, depuis que c'est passé et qu'on est dans un temps, on se regarde vraiment avec des yeux étonnés chaque jour en disant « On s'aime encore, et on s'aime encore plus !» Mais c'est un miracle.
Donc il y a de l'avenir.
Ouais.
Et puis je pense que le meilleur moyen aussi qui est de l'avenir, c'est comme ces couples qui savent un peu qu'ils vont devoir. Y en a un qui doit partir dans un an, loin, donc on profite de cette année. Je pense que le groupe peut durer extrêmement longtemps si on n'a pas peur de se dire que c'est pas une fin en soi, c'est-à-dire on n'est pas en prison, on est là parce qu'on aime être ensemble, faire de la musique ensemble. Si un jour on sent que
on
l'expression
rien à dire.
Vient ailleurs et qu'on va pas être con, quoi.
Enfin, on va pas insister pour. Pour faire quelque chose qui n'est pas lieu d'être.
Ça c'est fou, ensemble on arrive à s'exciter encore, à se donner de l'inspiration et avoir des idées ensemble. C'est génial pourvu que ça dure éternellement.
Et puis après quand on se sépare, on peut toujours se reformer pour reprendre du pognon.
Oui, non, ou pour dire des nouvelles choses. Alors il y a l'option pognon, il y a l'option on est allé explorer le monde.
Fait, en fait, on est dans cette période.
C'est le comeback, c'est notre grand comeback.
En fait on se sépare, maintenant on revient le 24, donc soyez là.
Et ben voilà justement Sébastien qui arrive. Sébastien, ça me fait plaisir, j'allais justement partir.
C'est vrai.
Sébastien
merci,
Wolf, le cinquième membre de Feu Chatterton qui vient de débarquer de vacances du Brésil. Merci tous les cinq donc de nous avoir emmenés en balade. Je rappelle que vous serez au Zénith à Paris le
24 janvier.
Le 24 janvier et que ça va être un grand moment. Je remercie le studio de Samy Hosta, je remercie Prestige Coiffure,
yes.
Je remercie chez Jeannette et je vous souhaite un bon dimanche et on se retrouve dimanche prochain à 11h.
Bon dimanche Frédéric, à la semaine prochaine pour une nouvelle balade. Et d'ailleurs en parlant de ça, vous retrouvez celle d'aujourd'hui et les précédentes sur europe1.fr.